Alors, Monsieur Cibot, merci de nous donner quelques minutes pour réfléchir autour du logiciel libre. Aujourd'hui, nous sommes ici au CNIT, à la Défense à Paris. Il y a un salon open source Linux, c'est-à-dire toute une série d'entreprises et des grands groupes d'informatique, d'internet ou d'infrastructures de services. Les plus grandes, d'IBM à d'autres, sont ici pour promouvoir les services dans l'application du logiciel libre. Alors, 2008, quelle est la raison par laquelle toutes ces entreprises se sont jetées sur un logiciel collaboratif et collectif et pas privé?
On est passé en quelques années du logiciel libre qui était vu comme la vision de société de quelques idéalistes, pas dans le secteur économique, à maintenant le logiciel libre qui est particulièrement bien implanté dans le monde économique. Un des rares secteurs dans le domaine économique où on est une croissance de plus de 60% par an. Il y a maintenant dans toutes les sociétés de services en informatique une division logiciel libre. On avait déjà vu il y a quelques années des acteurs importants, notamment IBM qui avait annoncé avoir injecté $1 milliard dans le monde du logiciel libre. On a vu cette année Sun faire beaucoup de passages en libre parmi ces logiciels. Il y a un certain nombre de grands acteurs qui se lancent dans le monde du logiciel libre, renforcent leur position dans le monde du logiciel libre et ont une activité de plus en plus importante dans le monde du logiciel libre. C'est bien évidemment le développement d'un certain nombre de logiciels. On est parti au départ des couches basses dans les systèmes et maintenant on arrive au logiciel métier, au logiciel pour les utilisateurs comme la suite bureautique OpenOffice ou le navigateur web Firefox. On a maintenant des gammes complètes de logiciels libres disponibles pour tous les usages qui font qu'il y a un marché économique important avec de nombreux modèles économiques variés. L'association April a sorti un livre blanc sur les modèles économiques en décembre, profitant de la diversité de ces des entreprises membres, allant de la société de services en logiciel libre à l'éditeur de logiciels libres, en passant par les sociétés qui sont plutôt côté matériel et qui mettent du logiciel pour faire fonctionner leur matériel, ou les sociétés qui travaillent sur des logiciels métiers pointus en logiciel libre. Il y a donc un éventail varié d'acteurs dans le monde du logiciel libre, pas seulement des entreprises d'ailleurs, ça peut être des associations, ça peut être des passionnés, etc. Mais pour la partie économique entreprise, il y a un large choix de modèles économiques différents et qui font le succès actuellement du logiciel libre.
Alors, la première question que j'ai envie de vous poser est la suivante. Ça veut dire que le modèle Linux, c'est-à-dire le modèle d'un travail collaboratif, partagé et mondialisé, a gagné sur les grands firmes multinationales de l'informatique et de la production de logiciels, car ce type d'approche, ce type de complexité ne peut pas être développé par un seul acteur économique traditionnel. Est-ce que c'est ça le résultat de la situation actuelle?
On constate que la situation est différente suivant les secteurs. Sur la question de l'infrastructure, par exemple, la question est déjà réglée depuis longtemps. Il n'y a pas d'Internet sans logiciel libre. Internet fonctionne parce que l'infrastructure est basée très largement sur du logiciel libre. Sur d'autres secteurs, comme le poste de travail, le logiciel libre a plus de mal à entrer pour d'autres raisons. Non pas parce que les systèmes d'exploitation libre qui existent, les interfaces qui existent sont très performantes et très intéressantes, on le voit sur un certain nombre de nouveaux produits qui sortent, mais il y a des blocages dus à la situation de la vente clé, où il est difficile de se procurer du matériel sans avoir fourni avec, sans qu'on l'ait souhaité, des systèmes d'exploitation propriétaires. Et donc en fonction des secteurs, il peut y avoir un logiciel libre qui est très présent ou qui est moins présent en fonction des blocages et des attraits du secteur. Voilà ce qui peut expliquer des différences sur le logiciel libre. Maintenant, il est clair que pour une entreprise, le logiciel libre présente un certain nombre d'avantages. Ça peut être, suivant le type d'entreprise, les questions qui peuvent se poser peuvent être la question de l'archivage et de la pérennité des données. Est-ce que j'ai envie que mes données soient dans des formats que je ne maîtrise pas, dépendantes d'un éditeur qui peut disparaître, c'est déjà arrivé. des questions autour de l'indépendance, parce que j'ai vraiment envie que tout mon système d'information repose sur un seul éditeur ou une poignée d'éditeurs, parce que j'ai envie que quand cet éditeur me fournit ma solution de messagerie interne, ça m'oblige à faire le choix de sa suite de bureautique, de ses serveurs, de gestion de documents, etc. etc. et d'être en cascade obligé d'avoir une dépendance très forte auprès d'un éditeur. Des questions peuvent se poser autour de la sécurité. Est-ce que j'ai envie de confier des documents sensibles à des boîtes noires et à une société que je ne connais pas et qui, dans laquelle je n'ai pas de raison d'avoir une confiance particulière. Il y a aussi des questions de mutualisation. J'ai une entreprise et je peux, si le logiciel n'est pas mon cœur de métier, plutôt que de développer mes propres solutions dans mon coin, j'ai intérêt à mutualiser ce travail et à trouver d'autres acteurs pour travailler ensemble. Et le logiciel libre, c'est une des façons de permettre cela, permet de créer des consortiums avec des entreprises qui vont travailler ensemble sur un même logiciel qu'elles étaient incapables de réaliser seules, et là de mutualiser des moyens de réaliser réellement un produit.
Donc en deux mots, si j'ai bien compris, vous dites Linux et les communautés de logiciels libres, ils sont arrivés à une consolidation technique, technologique, coopérative par rapport aux grandes firmes. Est-ce que la façon même qu'aujourd'hui les grandes firmes privées sont toujours, comme je peux dire, avec le brevet des différentes fonctions, empêcher la coopération des différents acteurs sur le monde de l'Internet et de l'informatique, est-ce que la récupération est en fait positive ou négative par rapport au logiciel libre?
Alors on le voit sur d'autres secteurs que les développements collaboratifs et le travail collaboratif progressent dans différents domaines. On le voit avec l'encyclopédie en ligne Wikipédia, où il y a une contribution, une collaboration forte sur les questions de contenu, et on le voit dans le monde du logiciel libre. Il faut bien voir qu'il y a une diversité de pierres dans le monde du logiciel libre, à la fois le monde de l'entreprise, allant de très grosses sociétés à des petits artisans du logiciel libre, un certain nombre d'acteurs qui sont le secteur public, les administrations et les collectivités territoriales, des particuliers, des passionnés, etc., des universitaires. Il y a donc un paysage assez varié. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de grands groupes. Très bien le fait qu'il y ait une diversité d'acteurs qui permet de créer aussi une certaine confiance, de ne pas avoir un seul éditeur qui contrôle tout, ça rassure les entreprises légitimement de se dire qu'il vaut mieux faire confiance à un consortium d'entreprises qui développe un logiciel de manière ouverte et collaborative qu'un seul éditeur qui produirait son produit de manière fermée avec un modèle de vente à l'unité. L'autre point, c'est que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de menaces sur le logiciel libre actuellement, en particulier de menaces qui viendraient plutôt des domaines juridiques. Les menaces sur le logiciel libre, c'est des nouvelles lois restrictives sur le droit d'auteur, comme on a eu en Europe avec la directive européenne sur le droit d'auteur EUCD, ou aux États-Unis avec la directive correspondante qui est le DMCA. Ça va être la question de la brevetabilité du logiciel qui va revenir encore et encore cette année au niveau européen. C'est les questions de la vente liée, d'avoir des logiciels fournis obligatoirement quand on achète un nouveau matériel, de ne pas avoir le choix du système d'exploitation qu'on va avoir sur sa machine. C'est des questions autour de qui contrôle l'information, la question de l'informatique déloyale. Qui va contrôler ce qui est fait sur chaque machine et comment? Est-ce que c'est réellement le propriétaire de la machine qui contrôle ce qui est fait sur sa machine? Donc il y a un certain nombre de menaces sur le logiciel libre. En tant qu'associatif, nous, l'April, on est chargé de faire la promotion et la défense du logiciel libre. On intervient, on suit les projets de loi qui peuvent impacter le logiciel libre. On a des actions comme faire le dépôt d'une requête au Conseil d'État en France quand on estime que les acteurs du logiciel libre se retrouvent exclus du monde du multimédia parce qu'il leur devient impossible de lire des œuvres multimédia suite à la loi sur le droit d'auteur en France. On intervient sur les questions de normalisation quand la normalisation dans les formats bureautiques, des acteurs comme Microsoft viennent essayer de proposer leur solution bancale de normes sur la bureautique. Il y a des actions de ce type-là qui sont à mener et sur lesquelles on travaille côté April.
Alors, la dernière question pour le plus grand, c'est-à-dire pour un public qui n'est pas particulièrement averti sur le logiciel libre. Est-ce que vous pouvez nous dire brièvement quels sont les logiciels et quelles sont les possibilités d'application de le logiciel libre, en particulier Linux. Je veux dire en deux mots, est-ce que donc il y a la possibilité d'avoir un logiciel libre de traitement de texte, de calcul sur les serveurs, etc. Vous pouvez faire brièvement pour notre public un peu le résumé de toute la technologie du libre.
Alors, un logiciel libre, c'est un logiciel qui fournit aux utilisateurs les quatre libertés d'utiliser, de modifier, d'accéder au fonctionnement interne, de pouvoir le copier, le redistribuer, y compris les versions qu'on a modifiées. À partir de là, le logiciel libre est présent dans tous les secteurs existants dans le domaine du numérique. On en trouve aussi bien sur le poste de travail des particuliers que dans les entreprises, que sur les serveurs et l'infrastructure réseau. On en trouve dans le domaine de l'embarqué, on en trouve dans des téléphones portables, on en trouve dans des satellites. On le trouve présent dans la plupart des boîtiers ADSL fournis par les fournisseurs d'accès. On en trouve présent partout. À différents niveaux, que ce soit pour le système d'exploitation complet, pour des logiciels métiers, pour du graphisme, pour du multimédia, pour de la bureautique, pour de la navigation web, pour des jeux, pour la comptabilité, etc. Tous les secteurs sont couverts, on trouve du logiciel libre dans tous ces secteurs-là. Et voilà, du côté des particuliers, les logiciels libres les plus connus, les plus visibles, sont le navigateur web Firefox, le logiciel de courrier aussi Thunderbird, dont il y a eu des annonces de déploiement dans les administrations en France récemment. La suite bureautique openoffice.org. Et il y a un certain nombre de logiciels que beaucoup de gens utilisent sans même s'en rendre compte. Toute l'encyclopédie en ligne Wikipédia repose sur le logiciel libre qui gère l'infrastructure du site. La plupart des blogs et des wikis en général reposent sur du logiciel libre. Donc on trouve très fréquemment des gens utilisent du logiciel libre sans même le savoir, encore plus quand c'est des logiciels embarqués qu'ils ne voient même pas.
Alors, petite et dernière question, comment on peut les retrouver, comment on peut les télécharger et est-ce qu'ils sont gratuits ou quelle est la forme pour pouvoir les utiliser, les télécharger ou les appliquer?
Alors, le logiciel libre n'est pas forcément gratuit. Il y a du logiciel libre qui est disponible gratuitement, il y a du logiciel libre qui est vendu, ça dépend des stratégies et des modèles économiques qui existent vis-à-vis de l'équipe qui s'occupe de développer le logiciel. Une grande majorité des logiciels libres sont disponibles sur Internet en téléchargement. C'est pas forcément la solution la plus facile pour les utilisateurs classiques. En général, le particulier qui veut utiliser du logiciel libre va utiliser une distribution de logiciels libres, c'est-à-dire un système d'exploitation et un ensemble de logiciels complets, plusieurs milliers de logiciels qui couvrent tous les domaines et qui sont récupérables en tant que tel, qui fonctionnent pour s'installer et déployer tous ces logiciels, permettre des mises à jour, un système d'exploitation complet. Et donc il y a un certain nombre de distributions de logiciels libres qui sont connues comme Mandriva, Ubuntu, Fedora, etc., Debian. Il y a un certain nombre de distributions qui existent et c'est par là que passent les particuliers pour utiliser du logiciel libre chez eux. C'est donc la façon la plus logique de trouver du logiciel libre. C'est une des problématiques dont on parlait tout à l'heure, c'est la question de la vente pied. C'est le fait qu'il est relativement difficile de trouver ces distributions-là préinstallées ou disponibles sur des machines à l'heure de l'achat des machines. Et c'est bien le fait qu'il y ait d'autres systèmes d'exploitation propriétaires qui soient fournis par défaut sans qu'on puisse s'en passer, qui ralentit le déploiement du logiciel libre chez les particuliers.
Alors, encore merci beaucoup, Président d'Avril, M. Benoît Thibault, et merci pour cet approfondissement.
Merci.